et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Amcamgram. Donc, comme vous le savez, on enregistre sous un nouveau format qui est un format de débat. On en est déjà au troisième débat. Pour rappel, le premier, c'était sur le sujet « Faut-il commissionner les CSM ?» et le deuxième sujet, c'était « Quel niveau de pression est-ce qu'on doit mettre à ses clients en tant qu'account manager ?» Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu différent puisqu'on va parler de l'après, le métier et l'évolution du métier de CSM, à savoir, est-ce que le CSM est condamné, en quelque sorte, à rester CSM pendant toute sa carrière. Voilà, ce qu'on sait, c'est que ce métier de Customer Success Manager, avec tous les intitulés qu'il peut avoir, Account Manager et autres, en fait, c'est un poste qui est assez jeune. Du coup, on a assez peu de recul sur, finalement, les évolutions, que ce soit en horizontal, en vertical, en transverse, etc. Donc là, on voudrait savoir quelles sont les évolutions possibles pour un CSM, comment faire pour monter en compétences de manière continue et aussi quelles sont les typologies de postes auxquelles il peut prétendre dans son entreprise, éventuellement en transverse. Donc moi, quand je pense à l'évolution de CSM, instinctivement, je vais avoir deux chemins qui vont se dessiner. Un, monter en seniorité et deux, évoluer vers un poste de management. Sauf que je pense qu'il existe d'autres passerelles. Donc, pour m'accompagner sur ce débat, j'ai convié deux passionnés qui ont chacun leur vision très claire du poste de CSM dans sa globalité. Donc, à ma droite, j'ai Elisabeth qui a 6 ans d'expérience en tant que CSM. Et toi, Elisabeth, tu as rejoint récemment Talentsoft. À ma gauche, j'ai Guillaume. Toi, tu as 15 ans d'expérience professionnelle. Tu as été mon manager pendant 5 ans chez La Fourchette. Et ça fait un an que tu travailles chez MoveOne, une start-up dans la formation RH, en tant que team leader CSM. Donc, je vous laisse vous présenter.
Merci. Je suis Guillaume, j'ai 39 ans et donc ça fait bientôt 15 ans que je travaille autour de l'account management, du CSM. À une époque également, chez La Fourchette, on avait appelé ça des optimistes. Tout à fait. On était là pour optimiser le revenu des restaurateurs. Donc voilà, je baigne dans cette culture-là depuis maintenant un certain nombre d'années. Et j'ai rejoint donc MoveOne qui ne fait pas forcément de la formation mais plutôt du coaching digital il y a maintenant un an pour structurer l'équipe. Donc, comme il y a plein de noms autour de la partie CSM, chez nous ça s'appelle des CSP pour Client Success Partner.
Voilà, encore un intitulé.
Vas-y, top. Elisabeth.
Guillaume, attends, tu as oublié de dire quel est ton plat préféré.
Mon plat préféré? Alors, comme j'écoute forcément tous tes podcasts, c'est une question que je me suis dit, qu'est-ce que je vais y répondre pendant un moment. Ça fait 2 ans que je ne mange plus de viande, mais peut-être qu'un format de Madeleine de Proust qui me reste, une saveur qui me reste, ce serait la blanquette de veau. Mais je n'en mange plus. Ouais, pas vegan, mais plus de viande pour des questions d'impact écologique.
Merci beaucoup. Elisabeth, je te donne la parole.
Salut, je m'appelle Elisabeth, j'ai 32 ans, je suis donc devenue récemment Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est une entreprise qui propose un logiciel à destination des départements des ressources humaines. Donc ça fait 6 ans que je travaille en tant que CSM, et avant j'ai commencé en tant que commerciale, puis je suis passée en chef de projet, et enfin par hasard je suis devenue Customer Success Manager, essentiellement dans des startups, essentiellement pour des entreprises qui proposent un modèle SaaS, donc Service as a Software. Et dans la plupart des entreprises, j'ai monté le pôle CSM et c'est génial. Comme tu le disais, effectivement, j'adore le Customer Success Manager. Je vis, je dors, je mange Customer Success Management. Et donc, j'ai créé plusieurs choses autour de ça. Premièrement, un site de vulgarisation autour du Customer Success Management qui s'appelle portailcsm.fr. Un site qui agrège l'ensemble des ressources en Customer Success Management qui s'appelle Open Book of Customer Success. Et puis, j'organise également, hors confinement, chaque mois, des événements autour du Customer Success Management pour créer des débats, pour que les gens se rencontrent et favoriser le networking.
Trop cool. Bah, en tout cas, je mettrai les liens de toutes les ressources que tu as créées en commentaire de cet épisode pour pouvoir les retrouver. Elisabeth, ton plat préféré, s'il te plaît.
Et dire que je pensais éviter cette question, j'avais réfléchi, j'ai pas trouvé.
Jamais.
On va dire la pastèque. Oui, c'est très un bien. Plat.
Oui, c'est un plat.
Ça passe.
Très bien. Eh ben, écoutez, top. Merci beaucoup. Donc là, au cours des prochaines minutes, on va parler compétences, soft skills, management, passerelle d'évolution, expertise. Donc le thème CSM. Et après, c'est parti. Alors, première question qui peut paraître assez simple, mais finalement, voilà, qui pourrait être enrichie. Comment, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on gagne en seniorité en tant que CSM ?
Je dirais qu'on gagne en seniorité en pratiquant. Aujourd'hui, il y a peu de formations qui existent en Customer Success Management. Les formations sont essentiellement américaines. Il en existe peu en France. Les formations ne sont pas encore reconnues. Donc, on apprend en se formant. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que comme le métier de Customer Success Management est extrêmement jeune, la définition diffère d'une entreprise à une autre. Donc, en ce qui me concerne, je dirais qu'on apprend en faisant.
Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce côté d'apprendre en faisant, parce que de toute façon, les missions sont un peu différentes dans chaque entreprise, comme tu peux tout à fait le dire. Et surtout, je pense que le principal point pour gagner en seniorité, c'est de connaître le domaine dans lequel on travaille. On a besoin de connaître ses clients pour savoir comment est-ce qu'on les appréhende. On ne parle pas de la même manière à... un acteur du monde RH, comme nous on peut les rencontrer aujourd'hui dans nos activités Elisabeth, qu'à un restaurateur avec lequel on pouvait communiquer quand on travaillait ensemble avec Darina, c'est s'adapter à son interlocuteur. C'est de s'adapter à son interlocuteur, mais pour s'adapter, c'est pas uniquement au niveau du discours, c'est de comprendre ce qu'il fait, de comprendre ses enjeux, de comprendre ses pains, de comprendre ses problématiques, pour pouvoir apporter la solution adéquate. Notre rôle en tant que CSM, c'est vraiment d'apporter une solution à nos clients, d'être la personne, l'outil de l'entreprise pour répondre à une problématique client.
Ça me fait penser, juste petite parenthèse, que quand on était à la fourchette, mais quand je débutais, genre j'ai appelé un restaurateur vers 11h30 midi, il me dit non mais vous vous débutez là, c'est pas possible, vous pouvez pas nous appeler à 11h30.
Une des bases, voilà, de connaître quels sont les horaires auxquels les contacter, de faire des tests. Il y a des gens qui sont du matin, d'autres gens qui sont de l'après-midi, des restaurateurs qu'on ne peut pas appeler entre 11h30 et 14h30. C'est de connaître ses clients.
Mais je pense qu'effectivement, il y a deux pans à prendre en compte qui sont hyper importants en seniorité. Quand on parle de seniorité, montée en compétences en Customer Success Management, c'est premièrement la théorie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'onboarding, qu'est-ce que c'est que l'adoption, le renouvellement, etc. Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Et la mise en pratique, c'est-à-dire connaître le secteur, savoir à qui s'adresser, comment s'adresser à eux. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il en est chez La Fourchette, mais peut-être qu'ils prendront plus facilement un tutoiement qu'un vouvoiement, tandis que dans d'autres milieux, ça ne passera pas du tout. Et je pense que les deux pans sont tout aussi importants et c'est hyper important de monter en compétence sur les deux.
Complètement d'accord, oui.
Et alors, comment est-ce qu'on va se dire en tant que CSM, voilà, je trouve que je fais ce métier depuis quelques années, je connais mon périmètre, je connais mon produit, je connais mon entreprise, je connais mes clients, je sais comment ils fonctionnent, ça c'est bon. Comment est-ce que je peux me dire un petit peu, j'ai fait le tour de la question, je tourne un peu en rond et est-ce que je ne voudrais pas peut-être monter aussi sur un poste de management ? Et toi, Guillaume, aujourd'hui, tu es manager CSM. Quelles sont les spécificités, les compétences à avoir pour justement manager une telle équipe ?
Alors, L'évolution vers le management n'est pas forcément pour moi une évolution naturelle pour tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour être managers, qui ont entre guillemets, cette soft skills en eux, et d'autres qui ne sont pas faits pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut inventer d'autres passerelles d'évolution sur le poste. Le principal point pour être manager, c'est une capacité d'écoute, une capacité d'aider à faire grandir les autres, d'aider ses équipes à trouver leurs réponses par eux-mêmes. Moi, dans mes équipes, je connais beaucoup moins bien les problématiques de leurs clients que eux ne les connaissent. Par contre, je peux arriver avec ce côté un peu détaché pour leur poser les questions qui pour eux étaient naturelles et sur lesquelles ils avaient les réponses en eux. Ils ont les réponses en eux. Mais c'est de les aider à avancer vers ça. Le rôle du manager, il est là. Le rôle du manager, il est d'aider ses équipes à grandir. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a plein d'autres évolutions et c'est pas une fin en soi que de devenir que de manager des gens. C'est plutôt une vocation de vouloir faire grandir des équipes.
Mais quand tu as des équipes qui sont en poste, account management, CSM, depuis plusieurs années, enfin, tu as plusieurs personnes qui ont ce rôle-là et tout le monde a un peu envie d'évoluer. Enfin, comment est-ce que tu vas absorber
c'est un des grands sujets. C'est quand on commence à monter des équipes, assez rapidement, il faut se poser cette question de l'évolution. Parce que quand on crée une équipe, on embauche 2, 3, 5, 10 personnes en même temps qui ont toutes plus ou moins le même profil, qui vont évoluer aussi de manière différente sur la durée de leur poste. Donc, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire évoluer chacun. Est-ce que je les fais évoluer vers du management en structurant les équipes? Parce qu'à un moment donné, moi, en tant que manager, au-dessus de 8, 9 personnes, je ne suis plus un bon manager. En tout cas, je ne sais plus manager des plus grosses équipes. J'ai eu à le faire par le passé et ce n'était pas une grande réussite. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour proposer d'autres alternatives? Est-ce que c'est de venir spécialiser sur une certaine typologie de clients, des clients plus importants, donc évoluer vers des clients plus gros? Est-ce que c'est et d'autres CSM qui peuvent être plutôt sur du volumique, donc des clients plus petits, mais avec beaucoup de volume d'appels parce que ça correspond à leur personnalité, de mettre en place des managers intermédiaires ou derrière de pouvoir voir des évolutions vers d'autres métiers. Le CSM, derrière, devient un expert dans son domaine. C'est la meilleure personne qui connaît, en général, dans une boîte SaaS, c'est le CSM qui connaît le mieux le SaaS. C'est lui qui a réussi à tordre le bras dans tous les sens pour accompagner son client par rapport à ce qu'il souhaitait. Donc derrière, on peut tout à fait l'imaginer évoluer vers des postes autour du produit, autour de l'onboarding aussi plus spécifiquement, puisque derrière, il peut y avoir d'autres éléments. Il peut y avoir des évolutions vers les postes commerciaux pour certaines personnes. Il y a des équipes CSM, ce n'est pas forcément le cas chez Move1, mais il y a des équipes CSM qui sont très commerciales. Je ne sais pas si c'est toi le cas, par exemple, Elisabeth.
Chez nous, non, c'est pas le cas, mais je te rejoins complètement. Et même sur ce que tu disais par rapport au management, d'après ce que je comprends, le management que tu évoques consiste à s'occuper de ton équipe et plus forcément, ou en tout cas plus à 100% du métier, du corps du métier qui te concerne. C'est beaucoup moins d'opérationnel. Il y a des postes hyper intéressants de middle management comme des positions de lead manager, des postes de coordination où justement tu vas pouvoir rester dans l'opérationnel mais inspirer en éduquant tes collaborateurs plus juniors. Ça peut être des choses hyper intéressantes. Et effectivement, les enjeux de spécialisation sont très importants. Aujourd'hui, comme on le disait, c'est un poste jeune. Le poste de Customer Success, c'est un poste jeune. Le Customer Success Manager passe par toutes les phases de la vie du client. Et donc, il y a de plus en plus d'enjeux qui se créent. Cette semaine, je suis tombée sur un poste qui n'existait pas il y a une semaine. Customer Education Associate, c'est une personne au sein de l'équipe Customer Success Management, dont le seul but est de vulgariser la documentation client pour qu'elle soit plus accessible aux clients. La même chose, il y a quelques mois, il y a un poste de Renewal Manager qui est arrivé. Quelqu'un de Customer Facing qui va éduquer le client. Aujourd'hui, le poste de Customer Success Manager, c'est un poste qui englobe toute la vie du client. Du moment où il passe, du moment où il devient client jusqu'au moment où malheureusement il va nous quitter. Et c'est un poste extrêmement, c'est une tâche extrêmement difficile de d'héberger tout ça, même si on n'est que le fil rouge. Et il y a des postes qui vont se créer, des postes de spécialisation, comme tu disais, Guillaume, qui vont permettre à la personne d'évoluer, mais de se spécialiser. Des postes d'onboarding, des postes d'adoptant, peut-être des postes de coordinateur entre les différentes équipes de CSM, des postes de vulgarisation entre les équipes de produits. Donc, la porte est ouverte.
Ouais, complètement. On voit du coup ce fil rouge, comme pour reprendre ton expression, sur la partie customer journey une fois que le client a signé. Moi, je voulais savoir s'il existait aussi des évolutions peut-être en dehors de ce fil rouge. Là, Guillaume, t'as parlé un petit peu tout à l'heure de remonter le fil finalement pour aller vers des postes plus commerciaux. Tu pensais à quoi ? BizDev ? C'est quoi les qualités ?
Ça peut être BizDev, ça peut être des postes plus, entre guillemets, plus account management, avec vraiment signature, cross-sell, etc. En fait, comme on le disait un peu en introduction, comme le poste de CSM est différent un peu partout, il y a des CSM qui ont ce rôle de cross-sales. Nous, aujourd'hui, chez MoveOne, par exemple, la partie business reste chez les sales. Donc, on travaille vraiment en collaboration et donc le CSP chez nous est plutôt sur toute la partie exécution des projets, déroulement du projet. La partie sales reste chez les sales. Donc, il peut y avoir ces évolutions vers ces postes, vers ces postes plutôt d'account management. Je ne suis pas sûr qu'un CSM qui se retrouve demain chasseur chez les sales, on s'est peut-être loupé au départ sur le poste de CSM. C'est pas forcément dans la même nature. On a plutôt un rôle d'éleveur, si jamais on devait mettre ça par rapport à des commerciaux. Mais ça peut être une piste. Et à l'opposé, on peut avoir des vrais techniciens qui partent sur des rôles plus produits. Experts produits, experts de l'expérience utilisateur sur ces parties-là.
Je pense qu'il faut revenir aux bases où on se dit souvent que le CSM, il a des qualités qui sont diverses. Il faut qu'il soit empathique, il faut qu'il sache vulgariser l'information en interne, il faut qu'il sache expliquer, enfin il faut qu'il sache éduquer, etc., etc. Et plus il va avancer dans le poste, plus il va avoir une compétence qui va se détacher du lot. Et effectivement, moi je connais beaucoup de personnes qui sont passées en produit. Parce que peut-être ils en avaient marre de, enfin le poste de CSM devenait trop répétitif pour eux parce que à chaque fois les mêmes phases se répétaient. Peut-être des postes de customer experience, il y en a également beaucoup puisque là on arrête de parler au client et on se concentre sur l'expérience qu'il va vivre au sein de la solution technique. Il y a peu de personnes effectivement qui vont devenir commerciales, mais peut-être pourquoi pas des experts de support. Il y a beaucoup de directeurs customer success qui deviennent directeurs de support, pourquoi pas. Je pense qu'il faut se rattraper sur les compétences aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est ? Pourquoi on est rentré dans le rôle de CSM ? Qu'est-ce qui nous intéressait à la base ? Et qu'est-ce qui nous plaît le plus et qu'est-ce qui nous plaît le moins ? Et le manager le voit clairement pendant les évaluations trimestrielles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume.
Là-dessus, je suis complètement d'accord. Et on peut même aussi imaginer vers des éléments en marketing. Aujourd'hui, pareil, on est sur toutes les... notamment toutes les entreprises qui travaillent avec de la supply. Donc, il faut une expertise de connaissance de ces fournisseurs, entre guillemets, de la plateforme. Bah, qui mieux que la personne qui a parlé pendant 2-3 ans à ces fournisseurs pour pouvoir aller leur parler, créer du contenu pour eux. Donc, les portes sont ouvertes un peu partout. C'est le CSM est, c'est un peu le... La roue crantée au milieu de l'entreprise. On est l'interface parfaite avec les sales, on est l'interface avec le produit, on est l'interface avec le marketing, on est au centre. Ce qui rend le rôle compliqué.
Je dirais que quelqu'un qui rentre en tant que CSM, il a accès à un terrain de jeu sans limite. Il faut juste qu'il apprenne les règles. Et dès qu'il a appris les règles, il peut devenir ce qu'il veut parce qu'il a parlé à tout le monde. il sait exactement les plus et les moins de chacun.
Alors que c'est vrai que là, pour rejoindre ce que vous dites, c'est vrai que quand on voit des collaborateurs, par exemple, dans le département marketing, qui vont adresser les clients peut-être plutôt en masse avec l'automatisation, des emailings, des newsletters, des choses comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas le vocabulaire, entre guillemets, et qui gagneraient à être aidés par ces CSM, pour le coup.
Je pensais à un site dont j'ai plus le nom, je crois que c'est l'Onboarder ou un truc comme ça, un site américain qui propose des expériences d'onboarding. Et ce qu'ils mettent toujours en avant, c'est le fait que la capacité du logiciel à s'adapter à la personnalité de ses clients et à leur métier. Et souvent, et s'ils le mettent, si un site spécialisé parle de ça, ça veut dire que c'est des exceptions. Il faut le prendre en compte, c'est hyper important. Vas-y Guillaume, pardon.
Ouais, non mais je suis complètement d'accord. C'est le ton. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie en fonction de ses clients. Le ton utilisé auprès d'un client, et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que chez un même client, on peut avoir différents niveaux de communication. C'est-à-dire que quand on est sur des systèmes complexes, des ventes complexes. Aujourd'hui, nous, on s'adresse à des chefs de projet qui sont des RH. Nos utilisateurs sont des managers d'entreprise, sont des collaborateurs importants dans les entreprises. On n'a pas le même ton. Pourtant, c'est des gens qui doivent utiliser notre outil. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'adapter? Comment est-ce qu'on arrive à dérouler notre vision, dérouler ce qu'on propose, avec en plus parfois de l'insight client qui vient nous dire la raison de laquelle pour laquelle il nous a choisi nous. Et donc, il faut qu'on arrive à aller toucher l'utilisateur final. Parce que ce qui nous intéresse dans toute entreprise SaaS, c'est que l'utilisateur final, il l'utilise. Ce n'est pas juste de faire beau, on a mis en place un nouvel outil, et au final, personne ne l'utilise. C'est un point très important, ce niveau de communication. Donc, si jamais demain, les communicants peuvent être des CSM, on adressera parfaitement bien nos clients.
C'est incroyable à quel point la plupart des entreprises aujourd'hui oublient qu'ils servent le client et qu'au final, il faut écouter le client, comment il parle, comment il réfléchit, quels sont leurs problèmes, comment ils gagnent leur vie, à qui ils s'adressent, pour que justement le logiciel tourne autour de leurs besoins, des besoins des clients et non pas des ambitions de l'entreprise. Et justement, le Customer Success Manager qui parle au quotidien avec les clients peut pousser ça, quoi.
Après, je pense que tu vois, le CSM, effectivement, il parle au client, il est expert, mais ce n'est pas son travail en soi d'aller voir les uns et les autres services internes dans l'entreprise pour justement leur apporter ce vocabulaire, cette formation et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un poste qui pourrait se créer justement en faisant le lien avec les CSM et les autres départements de l'entreprise, enfin...
Ça dépend de la taille de l'entreprise. Dans une startup, c'est à toi, en tant que CSM, voix du client. Je dis toujours le CSM, c'est l'avocat du client auprès de l'entreprise et l'avocat de l'entreprise auprès du client. S'il y a un problème avec le client, si le client il dit « je ne comprends rien à votre fonctionnalité, je ne comprends pas pourquoi il faut aller cliquer sur ce bouton pour aller là », il ne va pas aller le dire directement à l'entreprise, il ne va pas aller directement le dire au technicien. Et il ne va certainement pas le dire lors d'un rendez-vous téléphonique avec son commercial. C'est à toi, CSM, de qualifier la demande et de la porter. Effectivement, plus la boîte grossit, plus il y a des postes intermédiaires qui se créent. Et peut-être que tu pourras qualifier le besoin. Il y a des produits qui font ça aujourd'hui. Par exemple, Product Board te permet de qualifier les demandes, de qualifier les frustrations des clients et de les remonter au produit. Mais quand l'entreprise est petite, c'est à toi, représentant du client, d'acheminer la demande. Guillaume, tu as fait plusieurs boîtes, toi. Ça se passe comment? Ça se passait comment chez La Fourchette?
Chez La Fourchette, je pense que c'est toujours compliqué de remonter les besoins, de classifier, notamment quand les équipes grossissent, de remonter des besoins structurés. On a tendance, et parfois j'ai vu dans des équipes, il y a un problème, on ne prend pas possession du problème, on le jette un peu sur une autre équipe en disant « il y a ce problème-là, voilà ce qui m'a été remonté par le client » sans chercher à savoir si c'est une vraie problématique. Après, le point qui est important aussi, le poste de CSM, il est central, mais souvent, et c'est quelque chose que j'ai souvent observé moi dans mes équipes, de gens qui disent on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être reconnu et on touche à tout, on est au milieu de tout, on a besoin d'être reconnu. Et chose que je ne disais pas, je pense, à l'époque où j'étais le manager de Darina. Maintenant, ce que je leur dis, c'est la reconnaissance, c'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous de célébrer nos victoires. C'est à nous de communiquer sur la célébration de nos victoires. Et c'est à nous de mieux communiquer sur nos pains. C'est le poste de CSM, il est central, donc il a ce rôle central de communication. Et si jamais on attend que l'équipe produit vienne développer le produit parfait pour nos clients, ils ne le feront pas parce qu'eux, ils sont dans une recherche d'innovation, ils sont dans une recherche d'évolution, ils ont une vision à 3, 6 mois, 2 ans en fonction de la maturité de l'entreprise. Et parfois, ils oublient le client. Et donc, c'est à nous de communiquer sur ces éléments-là, de communiquer sur voilà, ce petit point sur lequel le CSM a pu venir gratter pendant 2 ans ou pendant 6 mois pour aller chercher, pour l'avoir, de recommuniquer, voilà pourquoi est-ce que le client est content. Donc, c'est un point super important.
Au-delà de dire la fonctionnalité, elle va là où ce petit point est important, de montrer, de qualifier l'importance de la frustration que ça génère chez le client, l'expérience qui est là. On s'en fiche au final que ce soit un petit truc qui ne change pas énormément le produit. Mais si le client, c'est vraiment difficile pour lui, c'est à nous, CSM, ou en tout cas équipe customer facing, ça peut être le commercial, ça peut être le support, ça peut être le customer success manager, ou l'account manager, ou l'inside sales, peu importe. Mais c'est à nous, équipe de customer facing, de traduire ce besoin et de le remonter à l'entreprise.
Donc là, on a bien compris les passerelles du coup d'évolution, même le comment évoluer, comme tu disais Guillaume, comment est-ce que je veux faire savoir à moi N+5 qu'en fait je veux évoluer. Donc c'est cette idée de montrer ses réussites aussi bien en interne, j'imagine, que d'avoir des recommandations peut-être de tes pairs finalement, et aussi en externe puisque tes résultats vont parler d'eux-mêmes. Donc là, on a bien compris le comment évoluer, le sur quoi évoluer. Et j'aurais bien voulu aussi aborder, je ne sais pas si vous en avez dans vos entreprises respectives, il y a un poste qui a été créé il n'y a pas longtemps, qui justement est peut-être aussi une passerelle au CSM, c'est un poste de business operations ou business analyst, comme on va l'appeler, spécialisé sur la partie CSM. Alors je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est une évolution qui commence à se dessiner de plus en plus.
Oui, c'est clairement, aujourd'hui, les CSM, ils ne peuvent travailler qu'avec de la data. Et on, de toute façon, on ne peut contrôler que ce qu'on mesure, on peut évaluer que ce qu'on mesure, donc on a besoin de data. Étant donné qu'on est central, on a besoin de la data qui vienne de partout. Donc, soit on a déjà énormément de logiciels qui nous permettent d'avoir de la data, mais souvent, il faut construire la data. Donc, d'avoir un BizOps sur la partie CSM, c'est quelque chose de super important pour pouvoir contrôler tout ça. C'est une vraie passerelle d'évolution. Après, qui demande des compétences très particulières, c'est-à-dire que cette capacité d'analyse de la data, tout le monde ne l'a pas, mais c'est un point très important. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un point hyper important qui arrive lentement mais sûrement auprès des équipes, en tout cas de Customer Success Management. Mais effectivement, aujourd'hui, on commence à réaliser qu'on a besoin de data pour avancer. Maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent bloquer l'arrivée d'un CS analyst ou d'un business analyst, en tout cas quelqu'un qui gère les chiffres, c'est d'avoir cette data, de savoir la qualifier. Et c'est peut-être ça qui bloque les entreprises. Peut-être qu'on ne savait pas qu'au début, en tout cas quand le logiciel a été implémenté, quand les solutions d'accompagnement en interne ont été implémentées, on ne savait pas qu'il fallait toute cette data. Et donc, c'est peut-être ça qui manque, qui ralentit l'arrivée. Je sais que beaucoup de boîtes en France, enfin beaucoup de startups en tout cas en France, ont ce rôle. Et comme on en discutait précédemment, je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, ce soit un rôle qui soit réservé à des juniors. Toutes les offres que j'ai vues sont des offres qui sont réservées aux juniors. Et c'est dommage puisque c'est nous, seniors, ou en tout cas les personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent savoir les données qui sont à prendre en compte pour le bien du client ou pour l'avancée du produit. En tout cas, ce serait important d'être consulté.
Ouais, prendre du recul en fait sur le métier et qu'est-ce qui est important à donner. Et...
Pour les équipes CSM.
Tout à fait.
Toi, Guillaume, tu étais aussi sur ce rôle à un moment. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je l'ai occupé, oui, en partie chez La Fourchette. Plutôt, moi, j'étais plutôt sur un rôle de coordination des différentes équipes commerciales et pas spécifiquement sur la partie CSM. Mais oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et justement, de pouvoir renforcer les forces, de trouver aussi par la data où sont les points d'accroche. C'est-à-dire que peut-être qu'un des défauts d'un CSM, c'est de venir s'attacher qu'aux points négatifs en se disant, j'ai ce problème-là, et ce problème-là, il revient chez tous mes clients. Et en réalité, quand on vient creuser un peu dans la data, ça revient chez un client qui parle plus fort que les autres. Et qui n'est pas forcément le plus et qui est plus petit. Donc, ou en tout cas, c'est où c'est le client avec lequel le CSM a le plus d'affect. Et donc, du coup, ça devient le client le plus important de son portefeuille. Ce côté, voilà, de pouvoir venir analyser la data, de pouvoir venir creuser, c'est là aussi ça permet de faire grandir les équipes. C'est là où ça permet aussi de rentrer sur des KPI plus fins pour les équipes, sans que la data devienne une usine à gaz. C'est l'autre limite, hein. C'est-à-dire que quand on commence à mettre des gens qui sont très forts dans la data, ils peuvent leur faire dire tout et n'importe quoi et tout et son contraire. Donc, c'est là où il faut que le manager sache aussi les orientations qu'il veut donner à l'analyse de la data et à l'évolution de son pôle.
C'est un super point. Quand on prend par exemple le KPI qui est super important pour la boîte, qui est le taux de churn, on se rend compte qu'il y a énormément de façons de le calculer et que les chiffres ne veulent pas du tout dire la même chose. C'est hyper important de dire, OK, on veut le taux de churn, mais en fonction de quoi, on prend quoi en compte, et justement d'avoir cette vision stratégique pour comprendre les tenants et les aboutissants et ne pas faire dire ce qu'on veut aux chiffres.
Top, bah écoutez, merci beaucoup. Du coup, si je fais un petit peu le bilan de ce qu'on s'est dit, on a vu qu'il existait effectivement peut-être les passerelles un peu classiques de montée en seniorité et vous nous avez expliqué quelles ressources consulter et quelle attitude adopter aussi pour monter en compétences, monter en seniorité et affirmer aussi son souhait d'évolution. On a aussi vu la posture du manager CSM et toutes les qualités, les soft skills que ça va impliquer de gérer une telle équipe assez nombreuse parfois avec différents profils et différentes attentes. La question de la reconnaissance aussi qu'on a abordée qui est hyper importante parce que ça va de pair aussi avec l'évolution. Et on a vu, voilà, comme vous venez de l'expliciter, les différents profils de personnes, ceux qui vont avoir le profil plus chasseur, qui vont peut-être aller faire de la chasse, soit dans le département sales ou soit de la chasse au sein de l'équipe AM, la spécialisation sur la customer journey au moment où, sur le fil rouge du CSM, et aussi un profil plus chiffres, data, qui va pouvoir prendre du recul finalement sur l'équipe. Leur apporter les bons outils et la bonne aide justement dont l'équipe a besoin. Donc bah merci merci encore à vous. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose l'un ou l'autre.
Non, moi c'est bon, juste te dire merci à toi, Darina, de lancer ces sujets et d'appuyer sur ces sujets autour du poste de CSM. Ça contribue à faire parler à faire parler de ce rôle et à le faire découvrir pour beaucoup et pour beaucoup d'entreprises.
Pareil.
Top. Bon, bah écoutez, ravie de vous avoir eu avec moi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.
Bonne
Bonne
journée.
journée.